session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 2 juillet 96, cinquième conférence.
Comment, humainement, les hommes ont-ils découvert un au-delà de leur vie, que quelque chose subsistait après la mort ? Puisque la science archéologique nous révèle qu'avant même la naissance d'une tradition religieuse, les hommes préhistoriques enterraient déjà leurs morts. Est-ce possible qu'il y ait eu des signes divins, ou même une grande proximité de Dieu avec les hommes, comme on le voit dans l'Ancien Testament ? Autrement dit, il paraît impossible que l'homme ait pu découvrir l'immortalité de l'âme tout seul, si Dieu ne lui avait pas révélé, d'une manière ou d'une autre, est-ce vrai ?
Problèmes distincts. Il faut bien distinguer. Je vous avais dit que pour Aristote, il fallait toujours distinguer l'ordre génétique, historique, et puis la réflexion philosophique. Mais je ne fais pas un cours d'histoire des religions. Ce serait très intéressant, du reste. Mais je ne suis pas spécialiste là-dedans. Ça m'intéresse toujours beaucoup. Ça c'est sûr, c'est très intéressant. Quand je faisais un cours à Fribourg sur la création, je me suis intéressé sur toutes les traditions religieuses parlant de la création. Et de ce temps-là, je dois vérifier s'il y avait un changement. Parce que dans ce domaine-là, ça change. La plus vieille tradition était une tradition colombienne. Et cette tradition colombienne disait ceci: au commencement était le soleil et le canard. Vous voyez, toute la différence entre le début de la Genèse et ça, c'est pour ça que c'est intéressant. Au commencement était le soleil et le canard. Et le soleil dit au canard: il n'est pas bon pour toi d'être seul. Tu as des pâmes, à tes pattes, tu peux plonger dans l'eau, et tu ressortiras de là, de la terre, et le soleil, à partir de là, façonnera un homme. Intéressant, c'est pas ça qui a été gardé par le Saint-Esprit. Et ça reste quand même, de ce temps-là, le plus ancien vestige. Ah, c'est très curieux que pour l'âme, c'est pour la création. C'est pas pour l'âme. Pour l'âme, il n'y a rien. Alors, il y a cette parole de l'Écriture qu'il ne faut jamais oublier. C'est dans le prologue de l'Évangile de Saint Jean. La lumière, la véritable qui illumine tout homme, venait dans le monde. Il était dans le monde. Et par lui, le monde a été. Et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Alors, il est mis à ce moment-là cette note. Autre traduction, le Verbe était la lumière, la véritable qui illumine tout homme. Vous voyez, qui illumine tout homme. À partir de là, du reste, au point de vue de l'illumination de saint Augustin, il illumine tout homme, il venait dans le monde, ainsi de suite. Et le Verbe était, où il y avait la lumière, la véritable, qui illumine tout homme venant en ce monde. La lumière, la véritable, illumine tout homme. Donc, on affirme qu'il y a une lumière qui a été donnée à tout homme. N'oublions pas qu'au point de vue théologique, la nature humaine n'a jamais été créée sans la grâce. Mais la grâce a été perdue à cause du péché originel, chassé du paradis terrestre. On n'a, je crois, aucun texte avant la faute. Et au là-bas, dans le ciel, on le verra, les dialogues amoureux d'Ève et d'Adam. Sûrement. Ils peuvent s'embrasser l'un à côté de l'autre muet, n'est-ce pas? Et ils sont mis à parler uniquement quand le serpent a flatté Ève. Parce que c'est la première fois, je crois, qu'Ève a été interrogée. Je crois pas qu'Adam a interrogé beaucoup Ève avant. C'est peut-être ça qui explique, n'est-ce pas? Psychanalytiquement. Le besoin d'Ève de parler au serpent. Enfin, c'était quelqu'un qui s'intéressait à elle, qui l'interrogeait. Mais on sait après qu'il y a eu une promesse d'un sauveur. Et la promesse d'un sauveur, c'est déjà Dieu. Donc, il y a eu un dialogue avec Dieu avant la faute.
L'Église ne dit pas, oui, beaucoup, oh non, l'intelligence.
ressources humaines est capable, dans certaines circonstances difficiles, et elle peut. Voyez. Donc, il faut bien distinguer toujours l'ordre génétique et cette réflexion philosophique et critique sur la capacité de l'intelligence. Or, au point de vue des traditions religieuses, la tradition judéo-chrétienne affirme que le Verbe de Dieu éclaire tout homme venant en ce monde. Pour montrer donc que tout homme a un secours de Dieu pour être intelligent et chercher la vérité. On ne nous dit pas si c'est d'ordre surnaturel ou d'ordre naturel. Dieu nous éclaire si nous cherchons la vérité. Si nous avons soif de vérité, la vérité, Dieu nous éclaire. Il nous éclairera de multiples manières. Mais ce n'est pas... on ne peut pas affirmer que seule la révélation peut nous faire découvrir que l'âme est immortelle. Tandis que je puis dire, je dois dire, que la très sainte Trinité ne peut être découverte que par un secours spécial de la grâce. Mais ceci, j'allais dire, c'est pour le chrétien. Pour le chrétien, on doit maintenir ça. Et on doit maintenir que certains hommes, comme Aristote, comme Platon, ont découvert que l'âme était immortelle. Platon avec des bavures, Aristote de façon très correcte. Donc dire que c'est impossible pour l'âme, non. Disons que dans un climat comme le nôtre aujourd'hui, c'est très très difficile. Voilà, ça c'est très vrai. Ce que je vous disais hier, les erreurs d'aujourd'hui sont des erreurs très anciennes. Et quand les erreurs sont très anciennes, elles deviennent comme des choses normales. Quand les erreurs sont de la veille, c'est beaucoup plus facile à découvrir. Parce qu'on n'a qu'à regarder ceux qui disaient juste avant, qu'est-ce qu'ils disaient. Tandis que quand on a des erreurs qui datent du XIVe siècle, qui ont existé avant, chez certains, mais qui, depuis le XIVe siècle, se sont enracinées dans le patrimoine philosophique et théologique. C'est pas commode d'en sortir. Les ornières sont plus fortes. Les ornières. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à partir de quel moment on arrive à cette confusion. Et ça, ça fait partie alors de la critique. Et de la critique qui étudie à quel moment il y a eu confusion. De sorte que je suis tout à fait d'accord que les traditions religieuses ont existé avant la réflexion philosophique et que dans les traditions religieuses, on parle de l'âme immortelle. Donc c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Il y a eu d'abord les traditions religieuses. Nous pouvons dire et que l'homme a été éclairé par le Verbe de Dieu. Au début, ces traditions religieuses. Dans ce qu'il y a de juste dans ces traditions religieuses. Alors, c'est sûr que pour nous, on doit se poser la question que je vous disais, que Heidegger se pose, la différence entre le moutos et le logos. Reconnaître que certaines données nous sont données par les traditions religieuses, mais que ces données des traditions religieuses, le philosophe, Platon, Aristote, ont découvert que ces données mythiques, qui étaient données sous un point de vue mythique, impliquent un véritable logos philosophique. C'est-à-dire une réflexion intellectuelle philosophique. Le logos veut dire ça. voyez, tandis que si je regarde cette tradition religieuse qui dit qu'au début, au commencement est le soleil et le canard, je cherche un peu et je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de logos, mais il y a un moutos puissant, un mythe très fort au point de vue imaginatif. Oui. C'est pour ça, c'est depuis que le canard enchaîné, c'est à cause de ça. Parce qu'il est resté toujours en dialogue avec le soleil. Seconde question.
Qu'est-ce que l'ontologisme et pourquoi conduit-il à l'athéisme ? Qu'est-ce que l'ontologisme ? Pourquoi conduit-il à l'athéisme ?
Qu'est-ce que c'est que l'ontologisme ? L'ontologisme est une erreur classique en philosophie. C'est de considérer que ce que je connais, ce qui est intelligible, mes idées, parce qu'elles sont intelligibles, elles existent. Je passe du jugement intelligible, ceci est intelligible, à la réalité. Je passe d'une connaissance symbolique à la réalité, au jugement d'existence. Je passe du domaine intentionnel au domaine existentiel. Alors je m'explique pour que vous compreniez. Le mot intentionnel est un mot philosophique. C'est pour distinguer ce qui est pensé, connu, conçu. Quand je pense et que je dis, Pierre est intelligent. C'est une proposition que mon intelligence a faite. C'est le fruit d'une connaissance. Et le fruit d'une connaissance, surtout intellectuelle, je dis que cette connaissance a un mode intentionnel en moi, dans ma connaissance. Que ce n'est pas le réel existant, mais à partir du réel existant, j'ai une vie intentionnelle. Alors vous voyez, c'est toute la question de l'intention. Tout le monde comprend très bien qu'est-ce qu'on représente une intention au plan moral. J'ai l'intention de suivre la session de philosophie. Ça veut dire, j'ai le désir, j'organise tout pour pouvoir venir. J'ai l'intention. Bon. Cela ne se réalisera pas nécessairement. Parce que quand j'ai l'intention, c'est un acte moral, intérieur. Ça exprime ma volonté. Je fais tout ce que je peux pour y aller. Mais je ne promets pas. Parce que d'ici là, si vous avez pensé ça déjà depuis l'année dernière, il peut arriver des tas de difficultés. Je peux tomber malade. Il y a une autre invitation qui se fait, auquel je suis obligé d'aller. Ça tombe très mal, justement là. Le mariage d'un ami. L'ordination d'un ami. Et je pensais y aller, puis à cause de ça, je ne pourrais pas y aller. Donc vous voyez, toute la marge qui existe entre les intentions que j'ai au plan moral, j'ai l'intention de faire ceci. Au plan de la réalisation pratique, j'ai le projet de faire ceci. C'est de l'ordre du fait de gérer. l'intention et le projet. Et l'intention morale va, en quelque sorte, s'étendre dans l'ordre de la connaissance. Quand je connais quelque chose, je possède la connaissance de cette chose selon un ordre intentionnel. Vous voyez, intention morale, intentionnelle. Cela veut dire que ce que je connais est quelque chose de réel dans ma pensée. Mais ce n'est pas le réel tout court qui existe. C'est un réel pensé. Merleau-Ponty dira ce réel premier qui n'est pas intentionnel, c'est l'être sauvage. Parce qu'il est lui-même. Tandis que quand je l'ai pensé, c'est un être qui n'est plus sauvage, puisqu'il est dans ma pensée. Je le possède en moi. Cette connaissance du lion, même si c'est un animal sauvage, dès que je le connais, la connaissance que j'ai du lion n'est pas sauvage. Bien sûr, c'est un être que j'ai, que je connais. J'ai fait l'effort de le connaître et de le regarder longuement et de l'analyser. Alors, ce que je connais dans mon intelligence, ce que je conçois dans mon intelligence, je dis cela à un mode intentionnel. C'est-à-dire, c'est quelque chose de second. Et c'est quelque chose d'ordonné à un autre. C'est le propre de l'intentionnel. Il est doublement relatif. Il est relatif quant à son origine. Il est relatif quant à sa fin. Je ne demeure pas normalement dans l'intentionnel. Quand quelqu'un demeure dans l'intentionnel, on répond brutalement, tu restes dans ta bulle. Parce que l'imagination s'en empare souvent très très vite. Alors on ne sait plus très bien où est le réel, pas le réel. Oh, je me souviens de ça, oui. Puis forcément, l'imagination change et ça brode un tout petit peu. Alors j'ai dit 3 ans. Si c'est du commerce, on dit 10. Et oui, tu as dit 10. Mais non, entre les deux, il y a eu toute l'imagination qui a transformé la chose. Quand on est dans l'ordre intentionnel, la vérification, c'est le réel. L'intentionnel est en vue de connaître la réalité. L'intentionnel n'est pas une fin. C'est toujours un moyen pour connaître la réalité. Et l'intentionnel est toujours second. Il n'est jamais premier. Il n'est donc jamais substantiel. Parce qu'il dépend toujours d'un autre. Il dépend de mon expérience. Par mon expérience, je vois tout ce qui peut être imaginé, tout ce qui est de l'ordre imaginable, l'imagination est de l'ordre intentionnel. Alors vous voyez, vous avez l'intentionnel au niveau de l'intelligence, vous avez l'intentionnel au niveau imaginatif. Je rêve. Le rêve, c'est quelque chose. Quand vous dites, oh, vous l'avez imaginé, ce n'est pas réel, vous pouvez répondre, c'est réel à sa manière, au niveau de l'imagination. Parce que l'imagination, c'est quelque chose de réel. Quand on est poursuivi par une image, et le démon joue sur les images, pas seulement le démon, tous les gens qui veulent séduire, vous agissez par les affiches, les images. Donc vous agissez sur l'intentionnel et vous modifiez l'intentionnel de quelqu'un. Donc il y a l'intentionnel au niveau intellectuel, au niveau imaginatif, au niveau sens, au niveau sensible premier avant l'imaginaire. Vous avez l'intentionnel au niveau affectif. Tout ce domaine que vous portez en vous. Et le psychisme, c'est de l'intentionnel. C'est c'est de l'intentionnel. Dans le dialogue que je faisais avec des psychanalystes dans le temps, j'essayais toujours de leur demander, mais quel est l'objet propre et la raison formelle de la psychanalyse, de la science psychanalytique? Ils avaient beaucoup de peine à préciser, parce qu'ils n'y avaient jamais pensé. Et pourtant, au point de vue philosophique, on veut savoir qu'est-ce que je saisis? Quel est le domaine propre? Est-ce que c'est le domaine de la réalité? Non. Est-ce que c'est le domaine de l'imaginaire? Ah, très souvent. Mais ce n'est pas entièrement le domaine de l'imaginaire. C'est le domaine du refoulement. Donc d'un imaginaire qui naît à partir d'un refus. Donc ce n'est pas directement la réalité que je saisis. Ce n'est pas non plus l'image que je forme en moi, la première, mais c'est quelque chose de second, tout le temps. Ce domaine du refoulement. Et c'est de l'intentionnel. Et c'est très très vaste, le domaine de l'intentionnel. Et penser tout simplement à l'imaginaire. Alors, l'ontologisme, c'est quand vous considérez qu'entre l'intentionnel et le réel, il n'y a aucune différence. C'est que pour vous, l'intentionnel, c'est le réel tout court. Alors ça peut aller loin, vous voyez. Parce que j'imagine de marcher sur la tête. Et je me dis ça tout le temps, je marche sur la tête. Et c'est curieux que les autres ne marchent pas sur leur tête. Puisque moi, je marche sur la tête. Je suis convaincu. Bon, le jour où vous dites ça à côté de quelqu'un qui est à côté de vous, qui ne marche pas sur la tête, il dit, mais tu es fou, fais attention. Alors évidemment, quand ça va jusque-là, ordinairement, on fait la petite distinction. Mais pour d'autres choses, on ne fait pas la distinction. On identifie l'intentionnel et le réel. L'intentionnel intellectuel. L'intentionnel imaginatif, il faut déjà être un peu plus malade. Pas de distinction entre ce que j'imagine et le réel. Quand vous vous réveillez d'un cauchemar, un sérieux cauchemar, qui vous a fait hurler, dans le cauchemar, vous ne distinguez pas le cauchemar et le réel. Parce que vous hurlez parce que vous croyez que c'est le réel. Et le cauchemar provient de ces images que vous portiez et que vous n'avez pas assimilées. Et à ce moment-là, dans le rêve, vous ne distinguez pas ce que vous rêvez et le réel. Puis tout d'un coup, vous dites, ah, vous vous réveillez, ce n'est qu'un rêve. Mais il y a des moments d'angoisse. Si tous vos rêves, c'est le réel, c'est pas toujours drôle. Vous vous sentez poursuivi par un gros chien. Et vous le voyez, ce gros chien. Et il n'existe pas. Il est intentionnel. Et si à ce moment-là, quelqu'un vous tape sur, mais c'est intentionnel, ne t'inquiète pas. Pas du tout, pas du tout. C'est vrai, je le porte en moi, c'est ça. Mais tout le domaine des rêves, c'est le domaine intentionnel. Eh bien, l'ontologisme consiste à identifier l'intentionnel et le réel, à passer de l'un à l'autre sans aucune différence. Vraiment, à partir de ce moment-là, on commence à marcher sur la tête. Et quand c'est intellectuel, ça se voit moins. Ça ne se voit même pas du tout. Et les gens répètent. Parmi les philosophes, il y en a combien qui répètent? Quand ils savent qu'ils répètent, ça va encore. Mais quand il certifie que ce n'est pas une répétition, c'est l'intentionnel, au carré. Il croit inventer ça. Je crois que c'est là, il ne s'aperçoit pas qu'il répète sans avoir compris. Vous savez, je crois qu'on ne pourrait jamais arriver à exactement avoir tout ce qu'il peut y avoir dans un livre philosophique. Un enseignement philosophique tout ce qui peut relever de quelqu'un qui répète sans avoir compris, philosophiquement parlant. Il répète. Un jeune professeur de philosophie, mais il répète énormément. Heureusement, s'il n'aurait rien à dire. Donc il répète énormément. Le tout, c'est qu'il sache qu'il répète. Et ce point de vue-là, il y a un très grand progrès. Parce qu'il y, a des, il y avait des moments où on pouvait tout recevoir de quelqu'un, tout répéter, sans donner aucune référence. Le progrès de la critique, c'est que quand vous citez quelqu'un, vous le citez. Je tiens ça de tel. Je tiens ça de tel. Mais voyez dans Platon. Platon donne toujours ça comme des histoires qu'il a reçues. Et puis d'un temps, on ne sait plus si c'est Platon ou pas Platon. C'est tellement bien fait qu'on est dans l'intentionnalité à l'état pur. Dans Hegel, on est dans l'intentionnalité à l'état pur. Constamment. On ne sait plus où. Ce qu'il y a de merveilleux dans Thomas d'Aquin, c'est que tout ce différence entre l'intentionnel et le réel. Jusqu'au bout, il a toujours fait la différence, si on sait le lire. Mais hélas, la scolastique décadente n'a plus fait la distinction entre les deux. Leibniz ne fait plus la distinction entre les deux. On est dans l'ontologisme. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'ontologisme provient du primat de l'idée. Parce que mes idées ont un mode intentionnel. Tout mon langage est intentionnel. Mon langage, ce n'est pas la réalité. Il n'y a que la parole de Dieu qui, elle, n'est pas intentionnelle. C'est toute la différence entre la parole de Dieu et la parole des hommes. La parole des hommes est intentionnelle, la parole de Dieu n'est pas intentionnelle, elle a un réalisme efficace. Et c'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Parce que seule la réalité est vivante et efficace. Pensez à un petit chat et voir un chat réel, c'est pas la même chose. Vous pensez tellement bien à ce petit chat qu'il a des petits. Mais est-ce que l'intentionnel peut produire des petits? Non. Il n'est pas réel. Il n'est pas substantiel. L'argent, réalité intentionnelle, il fait des petits, l'argent. Ou il fait des petits, l'argent. Et c'est ça qu'Aristote condamne. Parce que l'argent est de l'ordre intentionnel. Un billet, vous mettez 100 francs dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Un gosse qui voit un billet de 100 francs avec des images dessus, puis un autre, c'est exactement la même chose. Attends, l'un, 100 francs, l'autre, bout de papier. Et comme c'est curieux. Comme c'est curieux de voir ça. À l'extérieur, rien du tout. Différence. Il n'y a que pour les spécialistes où on voit que c'est un faux. Alors ce faux reste purement intentionnel. L'autre, il est conventionnellement considéré comme semblable à toutes les pièces d'argent qui sont cachées en dessous. Vous regardez un billet de 100 francs, vous regardez des pièces de 5 francs. Ça c'est solide au moins. C'est plus un bout de papier. Vous accumulez. Vous dites, c'est la même chose. Tout ça pour l'angoisse, c'est la même chose. Et vous mettez à côté de toutes les pièces une réalité que vous avez achetée qui vaut le même prix. C'est la même chose. Conventionnellement, c'est la même chose. D'avoir volé ça, d'avoir volé les pièces d'argent, d'avoir volé le billet. Là, vous êtes dans l'intentionnel. Hein. Un intentionnel l'état pur au niveau commerce, au niveau échange, c'est intentionnel. C'est pas réel, c'est intentionnel. Tout le monde est d'accord là-dessus. On vit là-dessus. Et notre monde vit sur ce conventionnel. Et on vit sur ce conventionnel. Et on spécule sur ce conventionnel. C'est pour ça que la falsification des billets et la falsification de l'intelligence, c'est analogue. Et ça, c'est pour que vous compreniez ce que c'est que l'ontologisme. Au niveau pratique, on est toujours dans l'ontologisme. C'est ça qui est très curieux. On considère comme réel tous les billets de banque. C'est le réel. Mais c'est l'ontologisme dans la pratique. Alors tout le monde est d'accord, il y a une convention, mais le jour où la convention ne marche plus, ah, c'est très très curieux, vous savez, quand on réfléchit sur ce qu'est notre monde d'aujourd'hui et sur quoi il repose, vous voyez que l'ontologisme a gagné tous les domaines. Et que vous êtes bien obligé d'entrer dans ce domaine. C'est du conventionnel qui fait que c'est le réel. Et on considère ça comme le réel. Et on vous oblige de le considérer comme le réel. Il n'y a que le gosse qui a un réalisme suffisant. Vous dites, mais pourquoi c'est de bêtises, quoi. Là, à côté, ce sont des jouets. Là, c'est des trucs de pilote. Vous avez un bout de papier. Et tu dis, c'est la même chose. Oui, ça vaut la même chose. On vit un monde dans l'ontologisme. Et il faut beaucoup, beaucoup de réflexion et de critique pour voir que ce domaine de l'ontologisme peut être très pratique. C'est vrai pour le commerce, indispensable. Ce domaine de la réflexion sur ma pensée est très pratique. La science naît. De là. La science naît dans l'ontologisme. Puisque vous considérez que vos différents concepts représentent la réalité et que c'est la réalité. Alors que ce n'est pas la réalité. C'est ce que le savant a saisi grâce à tel instrument. Et je prends toujours ce même exemple, parce que ça m'avait beaucoup frappé, et ça touche, je dirais, ce problème que nous voyons maintenant. On était un petit groupe sélect, très sélect, à Poissy, où avait le père Everard, et on était un groupe de 50, 60, des polytechniciens, des savants, des professeurs, à l'université, des bons... d'autres, moins sélects. On avait demandé à un très bon professeur de nous parler de la politique de la vie. Est-ce que la vie a une politique? C'est métaphorique, évidemment. Est-ce que la vie n'a pas de politique? Est-ce que votre corps, au niveau biologique, a sa politique? Oh. Lui, il disait, mais oui. Parce que si un organe disparaît, ou du moins est malade, un autre essaie de le remplacer. Il y a une petite politique. Un fonctionnaire est malade, un autre le remplace. Alors il y a beaucoup de fonctionnaires, il y a des hauts fonctionnaires. Parce que certains sont fonctionnaires, quand ils ne marchent plus, c'est assez embêtant. Il y en a qui marchent moins bien, ça a moins d'importance. Vous foulez le bras pendant un certain temps, le fonctionnaire, bras, ne marche plus. Alors, il se remplace par le pied. Mais quand c'est la tête, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile de le remplacer. Alors, il faisait la politique de la vie. Après, je devais parler de la vie au plan philosophique. Alors, j'ai commencé par dire tout ce que m'a dit ce professeur, le fruit de toute une expérimentation lointaine avec des instruments très perfectionnés qui grossissent ce qu'on voit de façon étonnante. Il n'aurait jamais pu parler de molécules avec l'œil normal. Alors, est-ce que ces instruments modifient l'équilibre du monde ou pas? On fait comme si ça ne modifiait pas. Parce que grossir avec un microscope électronique, c'est modifier le domaine intentionnel. Le réel n'est pas modifié. Mais dans le domaine intentionnel, c'est modifié. Et vous considérez que tout ce domaine intentionnel, c'est la réalité. C'est quand même curieux, ça. Et c'est tout le temps comme ça. Il y a une convention, on est d'accord. Puis de temps en temps, on met à réfléchir, à dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'ai fait, moi, vis-à-vis de ce brave professeur qui était un ami, donc on pouvait y aller carrément. C'est grâce à vos expérimentations. Il m'a dit, oui, c'est sûr, c'est évident. Mais vous ne l'avez pas dit au terme. C'est ennuyeux. Vous avez dit que c'est comme si c'était la réalité. C'est la réalité que vous avez pensé. Mais c'est la science. La science, ce n'est pas le réel. C'est quelque chose du réel. C'est pas le réel. Le réel est autre chose. Il fonde ce que vous avez dit. Mais il ne peut pas mettre une égalité. Parce que, qu'est-ce qui se grossit? Alors là, on touche un problème très important. Les sensibles communs peuvent grossir par le point de vue de microscope électronique. Mais les sensibles propres ne grossissent pas. Alors, le résultat est très différent si je regarde tout avec un appareil qui permet un nouvel équilibre. Dans l'ordre intentionnel, c'est tout à fait permis. Mais dans l'ordre réel, il y a là un abîme entre les deux. Or, on est tellement habitué à vivre dans l'ontologisme qu'on considère que ce qu'on connaît par la science, par n'importe quelle science, en se servant de n'importe quel instrument, c'est la réalité. Comme si la connaissance intellectuelle était le reflet de la réalité. Non, c'est pas le reflet de la réalité. C'est la réalité digérée d'une manière particulière, pensée, conçue. Je conçois la réalité. Je la pense. Et là, je suis dans l'ordre intentionnel. Et la réalité, dans l'ordre existentiel, n'a pas bougé. Vous voyez, prenez l'autre exemple, si vous voulez. C'est un exemple très simple. Quand vous regardez une petite église romane que vous aimez beaucoup, vous savez bien qu'elle apparaît très différemment. Si vous la regardez d'en haut, si vous la regardez dans le fond de la nef, si vous la regardez au transept, si vous la regardez de droite ou de gauche, vous avez des visions tout à fait différentes. Et aujourd'hui, comme on fait une photographie merveilleuse, les bons photographes, c'est de l'art. Ils vous présentent une même réalité sur des points de vue tellement différents. C'est toujours la même réalité, mais l'intentionnalité a varié. Et l'intentionnalité, c'est le point sous lequel vous regardez cette chose. Et vous saisissez à partir de là une certaine intelligibilité nouvelle. Alors l'ontologie consiste tout simplement à partir des idées et dire ces idées, c'est le réel. C'est ce qu'a fait Descartes. Et c'est ce que fait depuis Descartes jusqu'à Hegel. Depuis Occam jusqu'à Hegel. Voilà toute une tranche d'ontologisme pur. Alors, en présence de ça, la réaction, vous pouvez dire ça, vous pouvez dire l'inverse. Et c'est pour ça que les idéologies ont un a priori chrétien, en terre chrétienne, où les idéologies ont un a priori athée. C'est donc au-delà de ce que... Et c'est pour ça qu'on dira qu'il y a un ontologiste de droite et de gauche. Après.
Il y avait la question de l'athéisme. Comment l'ontologisme conduisait l'athéisme ?
C'est à cause de ça. Parce que si l'idée, l'idée ne saisit pas le réel existentiel, il ne saisit pas la finalité, le bien existant qui est ma fin. Il saisit simplement l'intelligibilité de la bonté, de l'idée de bien que j'ai, de l'idée de Dieu que j'ai. Et c'est pour ça que quand Sartre dit « l'idée de Dieu est contradictoire », Sartre a parfaitement raison. L'idée de Dieu est contradictoire. Parce que qui dit une idée dit quelque chose qui est relatif à un autre. Qui dit Dieu dit quelque chose de premier non relatif. Et là, Sartre a eu une lueur au-delà de l'ontologisme. Parce que de temps en temps, Sartre a vu que l'ontologisme présent dans la scolastique mène à des choses impossibles. Et on doit tenir compte de ça. On est en train de dépasser ce point de vue de l'ontologisme. Mais alors, on ne sait plus où aller. Il faut avoir l'humilité de revenir au réel. Si la philosophie a un intérêt, c'est de me faire connaître l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Et je sais que seule la philosophie peut connaître ce que c'est que l'homme. Si je fais de la philosophie, si je maintiens la philosophie, c'est parce que je sais que la philosophie seule peut dire sur l'homme certaines choses que aucune science ne peut dire. Elle peut parler de l'esprit. Elle peut parler de Dieu. Elle peut parler de l'âme. Elle peut parler d'immortalité. Pourquoi ? Parce que c'est le réel, l'âme. C'est pas une idée. C'est un principe réel, c'est une source. Alors je peux en parler au point de vue philosophique. Et la philosophie peut découvrir ce qu'est la finalité. Tandis qu'une idée ne peut jamais me faire comprendre ce qu'est la finalité. Elle me fait comprendre l'intelligibilité du bien. Mais l'intelligibilité du bien, ce n'est pas le bien. Vous voyez, c'est comme celui qui pense à l'amour qu'il a pour quelqu'un. L'amour qu'il a pour quelqu'un n'est pas l'amour de cette personne. Il pense l'amour. C'est très beau de penser l'amour. C'est très noble. Mais ce n'est pas l'amour. L'amour est autre chose. Vous voyez la différence entre ce que je pense et la réalité. Alors vous allez dire, alors je ne connais rien à la réalité. C'est ce que Platon disait. Je ne connais rien. Et c'est ce que Kant a dit après. Alors c'est pas vrai. Parce que mon intelligence a cette faculté autocritique de savoir que ce qu'elle pense de l'intelligibilité d'une chose n'est pas ce contact intellectuel que j'ai par le jugement d'existence, où je touche la réalité et je ne la conçois pas. Le jugement est au-dessus du concept, est au-dessus de ce que je comprends. Et donc, le jugement qui touche le réel me montre l'abîme qui existe entre la réalité, en tant que je dis ceci est, et la connaissance intelligible que j'ai de cette réalité.
En quoi la conscience fait-elle l'unité de mon expérience interne ? Quel lien existe entre la conscience et le jugement d'existence ?
Oui. La conscience est une chose interne et elle est aussi de l'ordre de l'intentionnalité. C'est toujours à partir d'un jugement, à partir d'une connaissance, que j'ai conscience de cette connaissance. Donc la conscience, c'est une attitude réflexive sur la pensée que j'ai de quelque chose, la connaissance que j'ai de quelque chose. C'est toujours un aspect réflexif, donc c'est toujours un aspect second. Tandis que quand je porte un jugement, ceci est, je suis au-delà de la conscience, puisque je décèle, je dévoile la réalité qui existe. Tandis que dans la conscience, je dévoile la manière dont je connais cette réalité. Et ce n'est pas la même chose. J'entends frapper. Non, c'est conventionnel. Ce que frapper pourrait être de nous réveiller, tout simplement. Alors, frapper nous dit cesser de penser. C'est l'été noir, le sacristain, il éteint. C'est fini, il est grand temps. Allez, on éteint. Alors, j'ai conscience dans l'été noir. Mais l'été noir me. La conscience n'est pas l'été noir. La connaissance, toute connaissance intellectuelle, j'ai conscience. Et ma conscience dépend de l'acuité de ma connaissance. Si j'ai une connaissance plus ou moins profonde, il y a une conscience affective. Je sais très bien qu'à l'égard de certaines personnes, immédiatement je vois ce qu'il y a de bon. Tandis qu'à l'égard d'autres personnes, oh là là, c'est très différent. J'ai une espèce de perspicacité terrible de voir tout de suite la bêtise qu'il fait. Il suffit que je le regarde pour qu'il fasse une bêtise. Alors je dis que je l'intimide. Mais non, il ne s'en aperçoit même pas où vous le regardez. Mais c'est comme ça. Et on a conscience de certaines choses. C'était en Suisse, je me souviens, dans le canton de Neuchâtel. J'étais en clergyman, oui. Bon, alors c'était très curieux comme dialogue. J'entre, puis tout de suite je vois certains qui crient « Ouh là là, voilà un curé, touchons du bois !» Alors je crie un peu plus fort avec celui qui était à côté de moi. « Pauvre type, je l'ai vu avant. » Alors il est devenu blême. Alors je lui ai expliqué que c'est un combat d'intentionnalité. Il n'y avait aucun danger, qu'il fallait que... ce genre de... Mais ça, c'est des a priori affectifs qui viennent limiter. Des bois, quelqu'un, un curé. On voit tous du bois. Comme si le bois mettait un abîme entre le curé et moi. Mais non. Je peux penser à lui. On termine quand même.
Comment expliquer que la personne humaine puisse évoluer tant, tout en restant la même?
Ça, c'est le gros problème que nous touchons de l'âme. L'âme est la même du petit enfant qui vient de naître. Et même sans doute avant. À quel moment l'âme est créée par Dieu? On ne va pas entrer dans ce problème. Le philosophe n'en sait rien. Mais il sait que dès le moment de la conception, tout est ordonné à la naissance. Donc c'est la conception d'un être humain. Et donc le fruit de cette conception, c'est un être humain. À quel moment cet être humain, ça n'a pas d'importance. Parce que l'être humain est être humain en fonction de ce qu'il est. Et non pas en état de sa perfection ou de son imperfection. Tant qu'il est, il est un être humain. Alors, il y a quelque chose en lui qui demeure et qui fait que c'est toujours la même personne. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous ne réfléchissez pas très longtemps sur savoir si la personne qui s'est réveillée est la même que celle qui s'est endormie. Une très bonne excuse pour aller lentement. Sois éveillé lentement, parce que je réfléchis profondément là au point de vue métaphysique, en savoir si bien c'est moi qui me suis réveillé ce matin, et si c'est bien la personne qui s'est endormie hier. Et c'est vrai, c'est un problème très important dans la philosophie contemporaine. Le jeu. Si vous restez à un jeu, je suis d'ordre purement au niveau du conditionnement. Le conditionnement n'est plus le même. C'est plus le même du tout. Il a changé. Il y a beaucoup de choses semblables, peut-être, mais il peut changer beaucoup. Parce que pendant que vous avez dormi, on peut vous transporter, si votre sommeil est profond, dans une autre salle. Ce qu'on fait avec des petits enfants, on les transporte dans une autre salle. On ne pense pas que c'est quand même un peu troublant pour eux. Mais on est quand même obligé. Alors on les porte, on change complètement mieux. Ils se réveillent, ahuris. C'est plus la même chose du tout. Et toutes les circonstances extérieures sont différentes. Et quand ils commencent à réfléchir, il est le même. Alors, quel est ce phénomène de l'identité? Il y a quelque chose en moi qui demeure au-delà de ces variétés, de ces variations. Mais il y a donc quelque chose dans l'homme qui est au-delà des circonstances extérieures. Et là, je le touche presque. J'ai conscience que, au bout de quelques minutes, peut-être d'affolement, que je suis la même réalité. J'ai donc conscience d'une réalité fondamentale en moi. Je peux dire qu'il y a donc un principe radical de vie et d'être qui demeure au-delà des péripéties extérieures. Point d'interrogation, est-ce que ce n'est pas l'âme? Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est grâce à l'âme qu'il y a cette identité au-delà d'une variété? Vous voyez la question qui se pose. Alors elle sera parfaitement résolue quand on aura découvert l'âme. Mais c'est peut-être une voie d'accès pour l'âme, au moins. C'est une voie d'accès pour se poser la question. Y a-t-il en moi un principe radical de vie au-delà de ces mutations? Et je peux aller plus loin. Mes derniers souvenirs, mes premiers souvenirs de mon enfance et ce que je suis maintenant, y a-t-il une continuité? C'est très important, ça. Y a-t-il eu des ruptures? Oui, il y a des moments où j'ai perdu conscience. Ça a fait une rupture, plus ou moins profonde. Mais si j'ai jamais perdu conscience en dehors du sommeil, il y a eu donc des moments où j'ai plus conscience de toute ma vie. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu tout à fait conscience que c'était bien moi. Alors, y a-t-il une conscience ontologique, radicale, une mémoire ontologique de quelque chose qui continue? Ou est-ce que c'est l'âme? Et c'est bon de se poser toutes ces questions, parce que ça montre que si je refuse l'âme, il y a des événements de ma vie que je ne peux pas expliquer. Je ne peux absolument pas expliquer. Et quand un médecin dit « le moral l'a sauvé », qu'est-ce que ça veut dire? Le moral l'a sauvé grâce au moral ou grâce à l'affection des parents. Ils sont venus voir régulièrement ce malade qu'ils aimaient, qui était leur enfant, qui était leur ami. Et ce maintenu une espérance de vie. Autrement, elle serait écroulée. C'était ce que tous ceux qui avaient été prisonniers dans la dernière guerre disaient quand ils revenaient. On a souffert tellement qu'un animal aurait crevé. J'ai entendu ça par beaucoup. On a souffert tellement qu'un animal aurait crevé grâce à quelque chose qui n'est pas notre corps et qui est dedans, mais qui n'est pas notre corps. On a pu dépasser tout cela. Il y a une force intérieure qui dépasse ce que, biologiquement parlant, on peut considérer notre vie. Il y a quelque chose de plus radical. Bon, là, il y a des faits, hein, et très souvent, on pourrait souligner des faits comme ça. Du reste, ce serait intéressant de toujours les souligner, parce que c'est comme une manifestation de quelque chose de radical et de fondamental en nous. On y reviendra, puisque on a commencé ce matin. On verra tout à l'heure comment, par induction, c'est le terme qu'il faut employer, c'est une démarche propre de l'intelligence, on passe de ce qu'on constate d'une façon visible à l'invisible. Le dernier livre de Merleau-Ponty, un livre posthume, mais qui est en train d'écrire, l'induction, le passage du visible à l'invisible. Mon corps, je le vois, je le tends. Mon âme, je ne l'ai jamais vue. Et vous non plus. C'est pour ça que je peux vous en parler. Parce que vous ne l'avez jamais vu. Et moi non plus, je sais que je ne l'ai jamais vu. Et quelqu'un qui prétendrait qu'il a vu son âme, je dirais, ça devient délicat. Vous ne pouvez pas trop savoir. Parce qu'on ne l'a jamais vu. C'est l'invisible. Et l'invisible commande le visible. Ah, ça, c'est déjà très calé. Tout le monde ne dit pas ça. Il faut reconnaître qu'il y a une réalité invisible. Quand on dit « il s'est sauvé grâce à son moral », c'est l'invisible qui sauve le visible. Et qui permet au visible de se tenir et de dépasser la fatigue.